Pour commencer, on va aborder un sujet qui est pernicieux, c'est tragique et c'est tellement simple, mais malheureusement, c'est en train de prendre racine dans notre société et je veux parler de l'insécurité alimentaire. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'avoir Mme Audrey Renaud, qui est directrice générale du regroupement Partage. Et on va parler de l'insécurité alimentaire là où nous en sommes et peut-être un début de solution, mais ça semble un peu loin. Bonjour, Mme Renaud.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci, vous aussi.
Oui, vous avez lancé un cri d'alerte, un cri d'alarme il n'y a pas très longtemps, une lettre aux médias. L'insécurité alimentaire commence à être, je dirais, là, presque enracinée chez nous.
Vos mots sont très justes, effectivement, parce que il y a une augmentation qui est alarmante de l'insécurité alimentaire, puis c'est comme si c'était un sujet qu'on tente de rabrayer un peu en dessous du tapis. Là, on balaye ça parce que c'est un peu confrontant. Puis ça confronte là, les valeurs d'un peu tout le monde parce que la clientèle type, là, je me permets de l'appeler comme ça, les demandeurs d'aide varient de plus en plus et ce qui est d'autant plus alarmant, là, puis il faut comprendre qu'on touche maintenant 15% de la population québécoise qui vit en insécurité alimentaire. Donc ça représente 1,3 million de personnes
C'est
qui n'arrivent
énorme.
pas à manger de plus de deux repas par jour.
C'est énorme parce que
Donc,
1,3, là, c'est une ville entière. Et vous avez parlé qu'il ne peut pas avoir plus de deux repas par jour parce qu'on va définir l'insécurité financière. Quel est le seuil d'alimentation sous lequel on tombe?
bien, en fait, concrètement, là, disons la description générale, ça voudrait de ne pas manger à sa faim. Mais
D'accord.
la majorité des gens, parce que ça, c'est très vaste, mais la majorité des gens, donc les gens qui viennent requérir de l'aide, soit dans les banques alimentaires ou dans divers programmes des organismes terrain, ce sont des gens qui, plus souvent qu'autrement, ont environ un repas par jour. Donc, pas de collation, un repas par jour. Et ça touche en grande majorité souvent aussi les enfants, les aînés. Donc, les gens doivent faire des choix judicieux, certes, de payer le loyer et ben, il reste plus rien pour l'alimentation. Et ça, c'est un fléau qui touche désormais les familles de classe moyenne, dont
Tout
où
à
les
fait.
parents d'un même ménage travaillent et n'y arrivent plus. Et ça, c'est excessivement tragique.
Parce que, et cette situation-là n'a fait qu'empirer. Je vois des chiffres que vous avez publiés. 700 000 personnes en mars 2019, c'était l'estimation qu'on faisait de la population qui vivait une insécurité alimentaire. 850 000 en août 2021. Là, maintenant, un an plus tard, 1,3. Et là, on le sait, il y a une crise du logement. Il coûte de plus en plus cher de se loger, mais en même temps, il y a une inflation des prix de l'alimentation, là. Ça aussi, ça aide pas.
Exactement. En termes d'inflation, au niveau de l'alimentation, il y a, disons, au mois d'août 2022, on est à peu près à 25 % et ça continue d'augmenter encore.
Oh.
Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir parce que, comme je disais d'entrée de jeu, là, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter un peu même d'en parler. C'est pas très glamour, la pauvreté. Mais là, quand ça touche nos voisins, quand ça touche pas juste des gens qui sont, par exemple, sur le bien-être social, avant c'était la clientèle type, là, faut
Oui,
que
qui
je le
sont
dise
souvent
maintenant.
stigmatisés après ça pour de toutes
Exact.
sortes de manières, là, mais
Exact.
au-delà de
Mais là,
ça.
quand c'est ton voisin, propriétaire d'une maison, là, ça change beaucoup, beaucoup la donnée parce que c'est plus du tout le même type de clientèle et ces nouveaux demandeurs d'aide-là ne sont pas aussi outillés pour faire face à ça puisqu'ils ne l'ont jamais vécu. Et ça, le 1,3 million ne cesse d'augmenter parce que ça, c'est ceux qui se sont manifestés en ayant besoin d'aide. Mais il y en a beaucoup aussi qui vivent ça malheureusement en silence parce que figurez là quelqu'un, une famille où tout le monde travaille, puis soudainement, on n'y arrive plus. Les gens vivent extrêmement de honte, d'isolement à
Oui.
tort, bien évidemment, mais c'est des effets collatéraux de l'insécurité alimentaire où après ça, s'ensuit des épisodes de santé mentale, bien évidemment, là,
Exact.
de stress, d'anxiété très élevés.
Parce que oui, tout à fait, cette insécurité alimentaire-là, évidemment, c'est une poussée calorique, là, si on ne mange pas à sa faim, mais là, on peut imaginer qu'à moyen long terme, on va avoir des problèmes de santé qui vont alourdir tout notre système de santé, là, c'est une chose.
Entre autres, oui.
Les gens vont développer des problèmes de santé s'ils sont sous-alimentés. Mais dans l'immédiat, il y a, comme vous dites, il y a un poids social, que ce soit la santé mentale ou simplement là aussi la stigmatisation. Il n'y a personne qui veut être vu en train de sortir d'une banque alimentaire, mais si le besoin est là, le besoin est là.
Tout à fait. Tout à fait. Puis dans cette nouvelle clientèle-là, bien, la grande majorité ne connaissent même pas l'existence de ces banques alimentaires-là, donc le découvrent un peu en traçant ce nouveau chemin-là, puisqu'ils n'y ont jamais été confrontés. Puis je le répète, ce sont des gens qui s'isolent de plus en plus, parce que c'est souvent aussi des jeunes familles. Donc, oui. on oublie de participer à une fête d'amis pour les enfants. Les parents ne peuvent plus acheter de cadeaux, c'est plus abordable pour eux.
Exact.
Donc, isolent l'enfant, s'isolent eux-mêmes. L'enfant arrive à l'école, pas de lunch. Donc, il va essayer de cacher ça un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui a des répercussions tentaculaires là, énormes dans la vie d'une famille puis dans la vie des gens qui vivent ça. Puis, il faut qu'en termes de, en tant que société, on soit capable de s'y attarder comme il se doit, parce que en 2023, on peut pas concevoir, puis c'est ce que j'ai établi dans la lettre ouverte, on peut pas concevoir de laisser tomber autant de gens quand c'est rendu aussi généralisé. Là, on parle plus de cas d'exception. Une famille qui a racheté une maison, disons, l'année dernière, juste pour vous donner une idée à quel point c'est prenant, puis il n'y en a plus de maison à 300 000, là, mais figurons qu'ils ont réussi à avoir une maison à 300 000. Ils ont acheté ça l'année dernière. Bien, ils payaient à peu près, là, sur 25 ans, 1 164. Mais cette année, ils vont payer avec le nouveau taux d'intérêt. Oui. Donc, si malheureusement, ils sont sur un taux variable, ils vont payer près de 2 000.
Ouf! Et oui, ça budget, plus les aliments coûtent...
$ par mois.
Et les aliments coûtent 20 % de plus par année.
Et plus de 25 % de plus par année.
Exactement.
Donc, juste en termes d'hypothèque, on est à 1 000. Les aliments, plusieurs centaines de dollars. Donc, un ménage qui arrivait correct, sans plus, sans moins, ben là, se retrouve avec des déficits majeurs.
Ça marche plus. Dans certains quartiers de Montréal, dans votre lettre, on mentionne que quand on interroge les jeunes sur leur souhait le plus cher, là, 80 % d'entre eux mentionnent d'avoir un repas par jour. Là. Comme vous dites, on parle pas de la Disney, là. C'est comme société, c'est assez difficile de concevoir qu'on puisse être à la fois moderne et évolué et en même temps avoir une large strate de la population qui n'a pas le droit à ce qui est un besoin essentiel. Ce n'est pas inscrit dans la charte, mais ça devrait l'être. Le droit de s'alimenter et puis de vivre en santé. Il y a beaucoup de gaspillage. C'est où que le maillon casse dans la chaîne? Parce qu'il y a on peut évidemment s'attaquer aux questions économiques, là, que les taux d'intérêt soient élevés, qu'il y ait une inflation alimentaire ou il y a une crise du logement. Alors, de ce côté-là, peut-être la construction de logements sociaux me semble être la première solution. Puis de ce côté-là, c'est un peu silence radio. Mais du côté de l'alimentation, parce qu'il se gaspille de la nourriture.
Ah ben oui, énormément. Énormément. Puis c'est là où je veux pas me mettre un chapeau qui ne m'appartient pas, là, mais il y a quand même matière à révision de certaines pratiques, de certaines réglementations. Puis c'est certain que les réglementations ont été faites pour les cas d'exception qu'il ne faut pas ignorer, mais en termes d'offres et de demandes aussi dans les banques alimentaires, il y a moyen de mettre un élastique un peu plus souple, à savoir un produit qui peut rester sur des tablettes des mois de temps, mais qui finalement est jeté parce qu'on arrive trop près de la date de péremption. Mais je veux dire, quand on parle de barre d'arachide, là, c'est difficile de tomber malade parce qu'on est à un mois de la date de péremption. Et c'est là où je me dis, tu sais, il y a du gaspillage alimentaire dans les supermarchés, et même jusque dans les banques alimentaires. Donc, on essaie de réutiliser le plus possible, mais encore, c'est pas toujours possible. Puis même si on parle d'aliments frais, donc fruits et légumes frais,
exact,
qui seraient disponibles à la transformation pour ensuite être redonnés sous forme de repas répit ou plus ou diverses formes dans les organismes, mais sont souvent jetés faute de main-d'œuvre pour les transformer.
Oui, parce qu'il y a la qualité de ce que l'on mange. Malheureusement, les gens qui vivent une insécurité alimentaire vont se retrouver à par défaut, à consommer des aliments qui ont été très transformés entre la matière originale puis ce que vous avez dans la boîte. Et à ce moment-là, on fait des choix, évidemment, alimentaires qui sont pauvres. Et ça, évidemment, ça, en plus, ça contribue à créer, je dirais, un cercle vicieux de santé et de problèmes de santé. Votre organisme, vous êtes partage est un organisme qui est très grand par rapport à l'univers du communautaire, si je peux dire. Là, ça fait 21 ans que vous existez. Vous avez des centaines de magasins partage. Vous recyclez ou vous distribuez des dizaines de milliers de kilos de légumes, de fruits, ainsi de suite, des paniers d'épicerie, des sacs à dos pour les jeunes. Mais tout de même, le communautaire ne pallie qu'à quoi? 20% du besoin?
En fait, avec tout ce que vous venez de nommer, là, juste pour vous donner une idée, nous, sur l'île de Montréal seulement, on n'atteint même pas le 5% de la demande. Ouf. Avec l'opération sac à dos.
D'accord.
Donc, on dessert plus de 6 000 enfants par année, donc avec un sac à dos complet, rempli d'effectifs scolaires, une épicerie à la famille, puis on n'est même pas à 5% de la demande réelle. Dans certains quartiers, c'est un enfant sur trois qui arrive à l'école, pas juste le ventre vide, là, qui
avec rien
pas,
dans les mains. Puis,
non, exactement, pas de sac à dos, un vieux bout de crayon et figuré. On va se le dire, là, les cours d'école, ça peut être aussi intéressant que nocif. Donc, cet enfant-là qui arrive très mal outillé n'aura pas la détermination et l'encouragement et le support nécessaire de ses pairs pour avoir le goût de continuer. Donc, rendu au secondaire, première chose qu'il va faire, bien, il va aller sur le marché du travail pour contribuer aux finances familiales. Donc, on retrouve ça aussi de plus en plus en tant qu'impact tentaculaire que je vous parlais tantôt. Des jeunes qui décrochent de plus en plus tôt pour contribuer au budget familial parce que pour eux, c'est extrêmement intéressant et alléchant, là, 20 $ de l'heure.
De dire,
ben, soit ça ou
puis il y a un besoin immédiat à la maison. Alors.
Ben, exactement. Donc là, les employeurs, eux, prennent ça à bras ouverts parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre pour ce type d'emploi-là. Les jeunes y sont, veulent travailler parce que sinon, ils ne mangent pas. Et ce qu'on entend même sur le terrain, c'est des gens, des mères de famille qui, on a entendu ça même cette année, qui me dit bon, ben parfait, OK, j'ai réussi à payer mon loyer enfin. Fait que ça me fait un toit pour laisser ma famille crever de faim.
Mm-hmm. Oui. Ouais, mais ça. On est dans une spirale de pauvreté, puis il n'y a pas de loi nationale à ce sujet-là. Il n'y a pas d'application cohérente de politique parce que ça touche plus qu'un programme, ça touche plus qu'un ministère. C'est
exactement.
Pas un problème d'alimentation, c'est un problème d'alimentation qui découle d'un problème de logement, qui entre autres. Et dans ce sens-là, il n'y a pas qu'une façon. On ne peut pas demander à l'école, aux professeurs de s'occuper de l'alimentation des enfants si en même temps les parents n'arrivent pas à payer et ainsi de suite. Alors, il y a un manque de coordination. Votre cri du cœur, si je peux dire, qui était vraiment. Pour que la société dans son ensemble lève les yeux, si je peux dire, puis constate le problème. Est-ce qu'il y a eu des échos? Est-ce que quelqu'un vous a rejoint en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'asseoir à une table avec toutes les instances?
En fait, j'y travaille. Pour être bien honnête, là, j'y travaille beaucoup, beaucoup parce que je trouve, puis en toute transparence, j'arrive du milieu privé, donc j'en suis... j'ai fait mes dents dans le privé. Donc, c'est certain que j'étais habituée où tout le monde travaillait en silo. Et quand je suis arrivée dans le milieu communautaire, c'est ce qui m'a le plus surprise de voir que on se doit de la façon où les programmes de subvention sont distribués, sont proposés. Les organismes doivent travailler chacun de leur côté et c'est un non-sens total parce qu'après ça, il y a une cannibalisation des demandes de subvention, le peu qu'il y a auprès du gouvernement et c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, personne n'est capable de desservir comme il faut la population. Il y a les ressources disponibles. Il y a des organismes hyper efficaces qui roulent à la grandeur du Québec, qui ont leur pertinence. Et là, en ce moment, les gens n'y arrivent pas parce que tout est dilué. Tout le monde a un petit bout juste pour dire que, bon, ben effectivement, vous en avez eu, tout est beau, faites votre bout de chemin avec ça.
Oui, c'est ça.
C'est super cliché, mais quand on entend que les organismes font des miracles avec pas grand-chose, je vous le dis, c'est des miracles avec pas grand-chose.
Oui, et puis à un moment donné, si la demande croît de façon aussi... quasi exponentiel. Là. On est passé de 850 en août 21 à 1,3 million de personnes en août 22. Puis si on était à 1,3 en août 22, où sommes-nous en janvier 23? Ben là, c'est sûr que l'élastique va péter, comme on dit.
Mais en fait, les demandes, les subventions qu'on reçoit ne sont pas plus grandes et la demande a doublé à Montréal.
Exact.
Juste à Montréal.
Donc, et on peut imaginer en région où là aussi il y a des, oui. des problèmes de logistique, de transport et de cette nature-là là, qui peuvent s'y ajouter. Ben, Madame Renaud, merci d'avoir été avec nous ce matin ou ce midi on va y revenir parce que c'est sociétal. Là. On est confronté à un choix de société où est-ce qu'on veut amener tout le monde en même temps au même endroit ou quelques-uns plus loin devant et d'autres plus loin derrière. Voilà.
Tout à fait. Merci beaucoup, M. Beauregard.
Merci.
Au revoir.
Merci.